9h, dans un petit coin de verdure de la région parisienne.
Oh là là, ça fait pas du bien de se reconnecter à la nature.
Ah, pas la nature, c'est vite dit. Hein.
Pourquoi t'as voulu qu'on aille se promener en forêt, Charlie?
Mais parce qu'on en a besoin.
Enfin, en forêt.
Ouais, c'est pas... Puis c'est pas pratique pour préparer l'émission. Moi, je suis obligée d'écrire sur mon téléphone en marchant, j'arrête pas de faire des fautes.
On s'en fout, Juliette. Aère ton esprit. Donne de l'oxygène à ton cerveau et les idées vont venir toutes seules.
Ah, ben là, ça vient, là. Oui, t'as raison. Ah. Là, j'ai une idée, ouais.
Ah, bah tu vois, voilà. Alors,
c'est quoi ton idée, Guillaume?
Mais c'est de retourner au bureau, de prendre un bon chocolat chaud pour me réchauffer. J'ai les doigts tétanisés, là.
Ah, mais non, enfin, mais profitez un peu, on est tout le temps à l'intérieur, on est toujours cloîtrés, toujours entre quatre murs, là.
Toujours avec le chauffage.
Allez, respirez cet air pur. Ressentez cet apaisement. Cet apaisement que provoque la nature sur votre morale.
Ouais, bah, je me sens super apaisé, là.
On aurait peut-être dû aller un peu plus loin que dans le parc en bas du bureau, non?
Oui, bon, bah, on fait ce qu'on peut, hein. Je suis pas Frédéric Lopez non plus.
Non, mais Charline, on comprend la démarche. Bah, c'est bien de vouloir casser un peu la routine, mais bon.
Ouais, mais bon, là, on a du mal à se sentir dépaysé. Voilà. D'ici, je peux voir la fenêtre du bureau.
Y a même Augustin Trattenard qui nous fait coucou à l'étage. Regardez, l'étage en dessous, là.
Oh, dis, je crois qu'il se fout de notre gueule.
Voilà, mais voyez, il nous fait un doigt, là. Regarde, oh,
mais, ouais, mais arrêtez, oui. Bah, regardez ailleurs plutôt. Tenez, bah justement là, c'est à quelle cette espèce d'oiseau que l'on peut apercevoir juste là, regardez. Oh, mais quel plumage élégant.
C'est un pigeon, Charline.
C'est un pigeon.
Oui, bon, ça va, je sais que c'est un pigeon. Enfin, j'essaye de vous faire rêver, mais vous vous prêtez pas au jeu, c'est bon, ok. Vous avez gagné, je rends.
Ah bah voilà, ah, d'accord. Ah. Bah voilà, elle fait la tête maintenant, ah, d'accord.
Arrête, Charline, enfin tu vas perdre tout le bénéfice de ce petit bol d'air.
Bah, je crois que je l'ai perdu à l'instant, je vous ai demandé de m'accompagner.
Ah bah voilà, bah, de toute façon moi j'ai plus de batterie dans mon téléphone, je suis obligée de rentrer.
Et bienvenue chez les petits plaisantins de l'actualité. Voici la devise du jour, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant à Ibiza sur les protocoles sanitaires. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Au théâtre ce soir, On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset. Une pièce inspirée de sa relation passionnée avec George Sand. Pour rappel, résumons en quelques mots la fin de la relation entre George Sand et Alfred de Musset.
Je t'aime.
Merci.
Ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais comme réponse.
Bon alors, merci beaucoup.
Ah oui, c'est ça.
C'est tout à fait ça. Ouais. Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Le monde expliqué au pitchoun. Alors de quoi s'agit-il aujourd'hui?
Je vais vous parler de l'inclusion des enfants handicapés à l'école aujourd'hui. J'ai appelé l'avocate Elisa Rojas, qu'on a déjà reçue ici, qui nous écoute et qui juge d'ailleurs le niveau de mes chroniques.
Affligeant,
oui, c'est ça, à peu près ça, c'est ce que je pense.
Et la Jupi Masterclass vous est proposée et présentée par... Aïssa Maïga, bonjour.
Bonjour.
Ravi que vous soyez là. Vous avez envie de partager avec nos auditeurs un film de Craig Gillespie, Moi, Tonia, dont l'action se situe dans le milieu du patinage artistique.
C'est nul le patinage artistique.
Ah, on sait. Moi, on aime bien quand se casse la gueule le patineur.
Ça va être bien. Et à mes côtés aujourd'hui, attention, surprise, c'est Juliette Arnaud aujourd'hui.
Oh, mais c'est Juliette.
Et à nos côtés, Charline a encore une triplette de chroniqueuses. Si le bourgeois gentilhomme l'avait rencontré, docte et sagace, elle aurait su lui expliquer le genre de prose qu'il faisait sans le savoir. Mais quel dommage. Bonjour, Laëlia Véron.
Bonjour, Juliette. Quelle présentation.
De quoi est-ce que vous allez nous entretenir aujourd'hui, Laëlia?
Eh ben, moi, je suis un peu comme Léa Salamé. Je n'ai pas peur de poser des questions sans concession. J'ai donc une question sur l'ordre des mots. Pourquoi dit-on un sandwich jambon-beurre et pas beurre-jambon?
On n'en sait rien.
Tout le monde se pose la question.
Si le petit prince l'avait connue délicatement, doucement, elle lui aurait chanté comment le renard prenait plaisir à uriner sur sa rose tous les matins. Comme je le regrette. Bonjour Yédré.
Eh oui, bonjour. Bonjour.
Alors, vous allez nous parler.
Sans doute, c'est vrai.
Mais c'est certain.
Il doit bien pisser quelque part.
Il faut bien qu'il pisse quelque part, alors.
Eh bien, on ne s'est pas concerté avec Guillaume Meurice, mais à croire que les grands esprits se rencontrent comme les petits. Je vais parler aux enfants de quand on est un peu différent.
Oh, d'accord. Je sens que ça va être tout à fait charmant.
Ça va être complémentaire. Ouais.
Voilà. Si Candy l'avait entendu raconter des histoires, elle aurait dit à la dame du générique de chanter au pays de Rookie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Mais quelle pitié. Bonjour, Rookie.
Bonjour, Juliette.
De quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, il s'agirait de questions de reproduction.
Très bien.
Très bien.
Vous n'avez pas le choix de toute façon. Hein. Elle l'a fait, elle l'a écrit, elle l'a dit.
Ah, je ne vais pas le dire. Très bien.
Non, ça ne me fait pas.
Mais ça me fait... Voilà, moi, vous savez, la reproduction, Charline, c'est ma vie.
Pour célébrer la journée mondiale du pop-corn, nous aurons un journal clairement fantaisiste, mais pas morne, des exercices au souffle qui décornent, un dessin assez fantasmatique pour y coller une licorne, et tout ça avec une, pour une émission qui, évidemment, va passer les bornes.
J'espère bien.
Là-bas.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot!
Bienvenue Aïssa Maïga.
Merci.
On est très heureux que vous soyez avec nous. Nous vous avions reçu comme invité il y a des années déjà.
Oui, un bail.
Un bail, un excellent souvenir. Et donc on est très heureux que vous reveniez pour cette Jupi Masterclass. Vous êtes actrice et réalisatrice. Et votre film documentaire, Marcher sur l'eau, qui est sorti le 10 novembre dernier au cinéma en France, qui sort, sortie nationale belge, chers amis belges qui vous nous écoutez nombreux, le 26 janvier. Il est sorti aussi peu de temps après, le 12 novembre, en Afrique francophone.
Absolument.
Alors, on note qu'il est éligible dans 8 catégories au César, oui. Dont meilleur documentaire. Donc on attend ça. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va savoir, Aïssa ?
La semaine prochaine, à peu près en même temps que la sortie belge. Je crois que c'est le 25 janvier qu'on aura le...
Croise les doigts.
La liste des nommés.
Mais bien sûr. Comment est-ce qu'il avait été reçu en Afrique francophone, votre film ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller là-bas lors de projections ?
Oui, j'ai montré le film au Sénégal, au Mali. Je l'ai montré également au Gabon.
Ouais.
Et il a été montré, mais je n'y étais pas malheureusement, au Niger. Et le film a été très très bien reçu. Ce qui est assez frappant, donc ça parle donc du manque d'eau en relation avec le réchauffement climatique. Toute l'histoire se passe dans un village dans lequel la lutte quotidienne pour l'eau est vraiment colossale. Ouais. Et c'est un film d'immersion dans lequel on est vraiment avec les personnages, avec leurs émotions, avec on est avec eux quoi, dans leur vie. Et ce qui est frappant, c'est que dans les capitales africaines, le choc est le même que dans les capitales occidentales. Ah. C'est-à-dire que il y a des problèmes d'eau dans certaines capitales, en Afrique de l'Ouest notamment, mais la plupart des gens ont évidemment accès à l'eau avec un robinet et ils ne se doutent pas de, quelque part, de la gravité de la situation dans certains endroits. Et là où on a tourné, c'est l'Azawak, c'est une région au Niger qui est extrêmement aride. C'est vrai que la question de l'eau est emblématique de, malheureusement, ce qui risque de se passer sur la planète. Si on ne fait pas quelque chose, et rapidement, notamment au niveau des Nations Unies, pour déclarer la crise de l'eau.
Bien sûr. Alors, si vous ne l'avez pas vu, alors j'imagine il est bien. Alors, il sera plus tard disponible, j'imagine, sur les plateformes,
en VOD,
etc.
Sur les partout.
Bien sûr. Et
partout.
On croise les doigts, donc on va suivre pour les Césars, bien sûr. Et donc, chez les Belges, le 26 janvier, Marcher sur l'eau, le film d'Aïssa Maïga. Vous êtes avec nous. Vous êtes dans la troupe pendant toute l'heure.
Ouais,
n'hésitez pas à intervenir.
J'adore.
On va d'abord écouter celle qui est maîtresse de conférences à l'université parjupitérienne, la linguiste.
J'en suis honorée.
Et stylisticienne, Laëlia Véron.
Merci Charline. Aujourd'hui, je voulais vous parler des binômes irréversibles, c'est-à-dire des cas de mots ou groupes de mots coordonnés presque toujours dans le même ordre. Par exemple, on dit un sandwich jambon-beurre et pas beurre-jambon, mari et femme et très peu femme et mari, frères et sœurs, etc. Et pourquoi ? Un linguiste, Yaakov Malkiel, s'est penché sur cette question et a dégagé des règles qui expliquent ses préférences dans plusieurs langues européennes. Règle 1, la logique. Quand on dit tel père, tel fils, l'ordre paraît logique. Idem pour des suites comme faire et défaire, question-réponse, janvier-février, peut-être qu'on aura bientôt Blanquer-Ibiza. On verra la suite. Deuxième règle, la sonorité. On observe une préférence pour des suites croissantes d'ouvertures de voyelles, surtout dans les mots brefs. Ça veut dire que le premier mot est généralement celui qui a la voyelle la plus fermée et le deuxième la plus ouverte. C'est clic et c'est clac, par exemple. Troisième règle, le rythme. On commence souvent par le mot le plus court, on finit par le mot ou groupe de mots le plus long. Au fur et à mesure, sale et méchant, la pluie et le beau temps. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, il y a une quatrième règle qui peut supplanter les autres, la règle hiérarchique. Malkiel avait remarqué que l'ordre du binôme pouvait exprimer la hiérarchie des valeurs dans une société. On a tendance à mettre le mot qu'on juge le plus important en premier. Par exemple, maître et esclave. On a très très peu esclaves et maîtres, les riches et les pauvres. Ça peut d'ailleurs poser des questions diplomatiques. Est-ce qu'il faut parler, par exemple, de tensions russo-américaines ou américano-russes ? Des fois, quand vous avez le même événement, vous le verrez présenté avec un mot en premier différent suivant le pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la règle hiérarchique l'emporte quelquefois sur les autres règles. Par exemple, selon l'ordre rythmique, on devrait mettre le mot le plus bref en premier et dire femme et mari, beurre jambon. Or, on dit mari et femme, jambon beurre, par hiérarchie, on met le plus important d'abord. Et cet ordre peut exprimer des hiérarchies sociales, mais aussi personnelle. Par exemple, lorsque vous parlez d'amis, de couple d'amis, qui nommez-vous en premier? Anna et Jean-Mimi, Jean-Mimi et Anna, Guillaume et Charline, Charline et Guillaume. Eh bien, souvent, ça va dépendre. Vous allez mettre la personne la plus importante, celle que vous aimez ou que vous connaissez le mieux en premier. Posez-vous la question. En littérature, on peut citer « Je rencontre Juliette », le roman d'inspiration autobiographique « Elle et lui » de George Sand, dans lequel elle retranspose sa relation avec Musset. Le roman a fait polémique et le frère de Musset, qui considérait que Sand se donnait le beau rôle, a écrit son propre roman « Lui et elle ». Il a changé l'ordre. Et d'ailleurs, tout le monde s'y est mis. On a eu tous les pronoms. Louis de Louis Collet, E de Gaston Levallée, E et elle d'Adolphe de Lescure. Tout le monde y allait.
Plus moi.
Et finalement, on a appelé ça les œufs brouillés. C'est les blagues du 19e siècle. Bref, on peut donc jouer avec ces ordres pour exprimer subtilement un point de vue. On pourrait choisir de dire Juliette et Roméo, les pauvres et les riches, des souris et des hommes. Inverser l'ordre, ça peut créer des effets de style et des effets de sens.
Waouh, là, Elia, quelle démonstration! Et je rappelle à nos éditeurs aussi que vous êtes très actifs sur Twitter. Vous répondez beaucoup, vous partagez, donc on peut interagir avec vous carrément.
Tout à fait.
Là, Elia Véron, qu'on pourrait écouter en podcast, hein. Podcaster ses précédentes chroniques aussi, n'hésitez pas. Oh, j'adore, c'est Jacqueline Taïeb.
Mais oui.
7h du matin à 17h19, génial.
Les 7h du matin, faut se réveiller. Se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je souffle ma brosse à dents. Quelle passée celle-là encore? La bleue est à mon père, la rouge est à ma mère, la jaune est à mon frère. Vous avez pas vu ma brosse à dents? J'ai un devoir d'anglais. J'aimerais bien avoir Paul McCartney pour m'aider. J'ai envie de mettre un 10 pour embêter les voisins qui roupillent toute la journée. Quelque chose comme un bon Elvis Presley. Oh, mais c'est vrai, celui-là, il en est resté. Un peu d'eau sur la figure pour me réveiller. Le dodo c'est terminé. Je suis presque prête et ça va beaucoup mieux. Je mets mon Shetland rouge ou bien mon Shetland bleu? Mon Shetland rouge? Mon Shetland bleu? Mon Shetland bleu?
Ça, c'est tellement moi le matin. Ça.
Inspiré de faits réels.
Voilà. Sauf qu'il est plus tôt, mais le bleu ou le rouge, je ne sais pas. Et puis j'arrive en retard, et puis voilà. C'est intéressant.
Mais oui.
Vous voulez vous le faire partager. Vous écoutez Par Jupiter, une émission. On apprend plein de choses dans cette émission sur France Inter, notamment Aïssa Maïga qui est avec nous. On attend avec impatience un Jupi Masterclass de cinéma. En attendant, nous allons devoir subir un journal avec Guillaume.
Ah oui. J'espère être aussi le ministre des savoirs fondamentaux des élèves et le ministre du bien-être des personnels, bien sûr.
Le journal de presque 17h17.
Comédie Musique présente Jean-Michel Sava.
Ça va ?
Jean-Michel Sava, c'est plus pour Sava sur un album exceptionnel avec le tube Est-ce que ça va bien Toulouse ?
Est-ce que ça va bien Toulouse ?
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de la décision d'Arnaud Montebourg de retirer sa candidature à la présidentielle.
Non, Charlie, on va en parler.
Je suis désolée.
Non, ne pars pas, Nono.
Vous n'étiez pas prêt, hein, je sais. On parlera aussi de...
De rien du tout. Il n'y a plus de goût à rien aujourd'hui, on parlera de rien.
Je sais, vous n'y attendiez pas du tout et je voulais... c'était un peu abrupt, je sais. Guillaume, remettez-vous, parce qu'enfin, on parlera, s'il vous plaît.
Le suicidé avec du miel. Ouais, je vais bouffer toute ta peau. Coller les gencives avec de la gelée royale. Séisme politique.
Je suis désolée, Arnaud Montebourg a donc annoncé le retrait de sa candidature.
Je vais vous dire franchement, Charline, c'est le deuxième jour le plus nul de ma vie.
Ah, c'est quoi le premier alors ?
C'est le jour où il a annoncé sa candidature.
Présidentielle toujours hier, Éric Zemmour s'est exprimé à propos de l'extrême droite.
Il faut arrêter avec l'extrême droite.
Et voilà, et enfin hein, il dit des choses intelligentes. Voyons, on critique beaucoup Éric Zemmour.
Non, Guillaume, vous êtes en train de m'arnaquer là. Non, attendez, est-ce que le réalisateur François Audouin peut diffuser l'extrait en intégralité s'il vous plaît ?
Il faut arrêter avec l'extrême droite, c'est une accusation politique.
Ah, oui, d'accord. Me disait bien que vous aviez triché. Non,
mais pour une fois qu'il disait quelque chose d'intelligent, vous gâchez tout, Charline, c'est dommage.
C'est-à-dire que si on le coupe, il devient intelligent.
Oui, c'est ça.
Hier, sur Twitter, Fabien Roussel a poussé un coup de gueule contre, je cite, ceux qui veulent interdire le Tour de France, les sapins verts, la viande et les centrales nucléaires.
Ils font une bonne campagne à droite.
Non, c'est Fabien Roussel.
Oui, je sais pas qui c'est en fait.
C'est le candidat du Parti communiste.
Du parti quoi ? Non, attendez, Charline, ça va. Normalement, c'est vous qui dites les titres et c'est moi qui fais les blagues. Le plus, si vous inventez des trucs. C'est carré normalement.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on enchaîne.
Enchaînons parce que.
Allez, invité de la nouvelle émission de Jean-Jacques Bourdin, Valérie Pécresse a tenu en préambule à rappeler son soutien à la parole des femmes et elle a déclaré la loi du silence, c'est fini.
Oui, c'est fini. Enfin, la loi du silence, c'est fini, sauf dans l'affaire Sarkozy, par exemple.
C'est vrai.
Oui, et dans l'affaire Fillon aussi.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et dans l'affaire Guéant, je dirais que c'est pas.
Et on a compris, je pense.
Attendez, parce que j'ai encore 262.
Ouais, non, c'est bon.
Non, c'est bon, d'accord, ok. Alors, hier, la chaîne I24 a lancé un débat de fond très intéressant sur l'affaire Blanquer.
Alors, on va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire d'avant la rentrée scolaire depuis Ibiza.
Ouais, c'est un débat très intéressant que je vous conseille, mené par Anna Cabana.
Attendez, Guillaume. Anna Cabana.
Oui.
Donc c'est l'épouse de Jean-Michel Blanquer en fait.
Oui, mais bon ça, oui.
Mais avec qui il s'est marié justement le week-end dernier ?
Oui.
Mais c'est un scandale.
Mais attendez, mais on dit toujours que les journalistes ils connaissent pas leur sujet. Là, on est quand même sur du journalisme d'investigation. Elle était au cœur de l'info, je veux dire, voilà.
C'est vrai dans le fond.
Ben oui, voilà.
Bon. C'est vrai.
Mais voilà.
Bah, d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer était invité hier.
Oui, dans les Marseillais à Mykonos.
Non, journal de TF1.
Ah oui.
À TF1. Il a répondu à la polémique sur Ibiza.
Oui. Je comprends le symbole d'Ibiza. Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air.
Et il a ajouté, car on ne met pas de glace dans le mojito l'hiver,
bien sûr, parce qu'avec la chaleur, l'alcool se volatilise comme dans le monde.
On enchaîne.
International, le bras droit du pape François a été testé positif au Covid.
Ah d'accord, et le bras gauche ?
Je parle du cardinal Pietro Parolin.
Ah d'accord, donc le gars donne carrément des noms à ses bras en fait.
Non mais c'est pas possible ça, je parle de son second.
Il a un second bras droit ?
Je suis fatiguée Guillaume.
C'est vraiment pas le moment,
en ce moment je suis très fatiguée, n'en rajoutez pas. Un nouveau jeu dont le principe est de découvrir un mot en 6 essais maximum est en train de faire fureur en France.
Découvrir un mot avec des essais, le mec sont à deux doigts d'inventer motus en fait, hein, Thierry Beccaro, on pense à toi.
Et enfin, l'homme greffé avec un cœur de porc avait en 88 poignardé un homme à 7 reprises.
Eh oui, visiblement, il avait aussi un caractère de cochon. Allez, les grosses têtes, on arrive. On est là.
C'est excellent, vraiment.
On pousse derrière, là.
Vraiment, c'est beaucoup de fatigue accumulée. Et à un moment, ça va exploser en vol. Hein. Donc là, je vais me.
On va vraiment passer du cœur de porc à Buchet.
Vous allez voir.
Allez, Juliette.
Tout le monde focus. Les auditeurs avec nous. Aïssa Maïga aussi, Rukata, concentré. Car Juliette Arnaud, vous avez choisi « On ne badine pas avec l'amour », une pièce de théâtre d'Alfred de Musset. Alors on comprend pourquoi vous avez choisi cet immense poète romantique et chevelé inconsolable. Mais pourquoi avoir choisi cette œuvre en particulier ?
Eh bien, Charline, parce que dans mon monde imaginaire, figurez-vous, je suis une personne importante, avec de grandes responsabilités.
Ah, dans le métavers, oui.
Voilà, je dirige très précisément un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Éducation nationale qui s'intitule le secrétariat d'État aux affaires sentimentales. Et entre autres, j'impose un atelier de lecture collective de cette pièce de théâtre. Oui, tout à fait, c'est obligatoire. C'est comme le permis de conduire chez nous si tu veux conduire. Dans mon monde imaginaire, si tu veux te lancer sur la route de la
d'amour, hein, là comme vous voyez je file une métaphore, non seulement tu lis cette pièce, mais ensuite tu es obligé d'en causer avec d'autres pour vérifier si tu as bien tout compris et tout ça et tout ça. Sinon, eh ben, tu fais piéton, hein, voilà, comme moi dans la télé. Et de la sorte, grâce à moi, ouais, tu évites les accidents mortels de l'amour, à toi et aux autres. Car oui, mon petit enfant, breaking news, tu n'es pas le centre du monde, hein. Je parle là à tous les enfants en ne m'adressant qu'à un seul, et ceci est une synecdoque. Alors que vu que dans la vraie vie je ne suis pas secrétaire d'État, eh ben je vais vous entretenir de cette pièce pour vous pousser à la lire et puis à y réfléchir, sans pouvoir vous punir si vous le faites pas. Ça c'est dommage, mais bon tant pis. En 1834, un jeune surdoué de l'écriture, 24 ans, Alfred de Musset, écrit ce Code de la route et l'intitule de la sorte « On ne badine pas avec l'amour ». Badiner, c'est-à-dire plaisanter, prendre à la légère, folâtrer, jouer à des jeux puérils et galants. Grosse spécialité des oisifs du XVIIIe siècle, hein, les autres, eh ben, ils travaillaient. Et puis, Musset arrive, et lui, pourtant, qui est vraiment pas le dernier pour la débauche et la badine, il arrive, le petit chéri de ces dames, et il le précise pour la postérité, on ne badine pas avec l'amour. Point. À la ligne terminée. Et on commence cette pièce avec un type, un baron, qui veut marier son fils perdicant. Pourquoi il veut le marier ? Parce qu'il s'ennuie à la campagne, le baron. Il se dit que quand son fils sera marié, ça lui fera de la compagnie. Il veut le marier perdicant avec la jeune Camille. Camille et perdicant ont grandi ensemble. Alors oui, ils se sont pas vus depuis 10 ans. Elle était au couvent, il était à Paris pour ses études. Mais quand ils étaient enfants, perdicant et Camille étaient les meilleurs amis du monde. Ils étaient heureux comme des cailles à folâtrer dans la belle nature, les quatre saisons, loin du monde et de ses turpitudes. Bref, le baron est serein, ça va passer crème. Et puis voilà les deux anciens enfants, adultes débutants, face l'un à l'autre. Perdicant propose à Camille d'aller se promener sur un sentier où naguère ils aimaient à jouer. Et Camille lui répond sèchement « Je ne suis pas assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. » Du coup, le baron est moins serein. Mais Perdicant, vexé, veut comprendre. Alors il insiste et Camille alors l'interroge sur sa vie amoureuse à lui, puisqu'il était à Paris, hein, il faisait des études pendant qu'elle était au couvent, maman. Et là, il lui raconte comme un imbécile sa vie amoureuse et elle lui met les points sur les i, elle lui balance vraiment très vertement entre les dents. Et vous ne croyez pas, bien sûr, qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avait aimé, et n'en êtes pas mort donc. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé, et vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne, et qui dirait « oui, oui, j'y étais », et qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Et en conséquence de quoi, Camille n'en veut pas de l'amour, ni de celui de Perdicant, ni d'un autre. Et là, Alfred de Musset va donner à Perdicant une botte secrète. Il va lui donner la tirade qui sonnerait même un bloc de pierre. La tirade que tu peux pas t'entendre sans à minima baisser la tête et murmurer « Ouais, ouais, je vois ce que vous voulez dire. » Et la tirade commence par « Tous les hommes sont menteurs. » Ah, dis donc, Juju, ça a l'air super, et après? Mais j'ai plus le temps de vous la dire, et encore moins le temps de vous révéler à qui Musset avait volé ces mots, mais je le ferai la semaine prochaine. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci, on attend la suite, bien sûr, oui, mercredi. Et si vous ratez le début, il faut simplement réécouter en podcast ou en vidéo, bien sûr. Rouquette à ce que vous faites régulièrement. Vous dites comment? Ah, voilà, bien sûr.
Petite de Rouquette, hein.
Aïssa Maïga est avec nous tout à l'heure, elle nous offre une Jupi Masterclass de cinéma. Vous serez à l'affiche d'un film d'Andrea Bescon et Éric Métayer prochainement au cinéma. Ça s'intitule « Quand tu seras grand ». Est-ce, oui, que c'est prochainement ?
Alors, je n'ai pas la date, non, de sortie et je la guette. Il y a des tournages qu'on fait en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, ouais, où on sait, on le sait, on le sent, ça va être... voilà, bon, je veux pas trop survendre. Hein. Ouais, ouais. Je l'ai pas vu moi-même, en vérité. Mais en tout cas, le scénario était magnifique.
Est-ce qu'on peut dire un mot ?
Oui, on peut dire un mot. Hein. Alors, un mot, c'est dans un EHPAD.
Ouais. Déjà, ça fait rêver.
Mais ça, voilà, voilà, tout est dit. Donc, dans un EHPAD, des enfants débarquent parce que dans leur école, la cantine ne fonctionne plus. Moi, je suis l'animatrice, je m'occupe de ces gamins-là. D'accord. Et En fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ce qui est très fort, c'est l'écriture d'Andréa Bescon et d'Éric Métayer.
Mais ils sont forts.
Ils sont tellement drôles, touchants. Ils vont au cœur des problèmes de société, des problèmes entre les hommes et les femmes, les jeunes, les vieux entre les... Non, c'est... Le scénario est virevoltant et le tournage était dingue. Moi, j'ai juste envie de devenir... d'oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et de m'installer dans un siège pour découvrir le film.
Écoutez, vous donnez très très envie en tout cas. Guetton, ça s'intitule « Quand tu seras grand », Andréa Bescon, Éric Métayer avec Aïssa Maïga. Pendant que nous discutions, il y a Guy Edré qui est allé s'installer au piano. Et généralement, elle s'adresse aux parents, aux enfants. Et ça dépote, hein.
Bah, j'aime bien leur parler aux enfants.
Je sais.
Quand on est différent, pas tout à fait pareil que les autres gens, le monde peut être cruel. Tes parents diront que t'es particulier, mais aux yeux des autres, t'es juste un gros handicapé qui bave et se vautre. La société n'est pas adaptée à ceux qui ne voient pas, ceux qui ne peuvent pas marcher, pas se servir de leurs bras. Mais depuis un certain temps, il existe un handicap, pas du tout excluant, dont tout le monde se tape. C'est une déformation pourtant sévère, une infirmité assez louche qui consiste à avoir l'anus à la place des lèvres et faire caca par la bouche. De là où sortent normalement des mots, on voit jaillir subitement de la merde par flot, mais c'est pas grave, apparemment. Être handicapé, y'a pas à dire, c'est la loose, sauf quand ça te permet de bosser sur CNews. La science ne s'est pas encore penchée sur cette malformation qui voit s'inverser l'œsophage et le côlon. C'est pourtant pas bénin de déféquer au lieu de parler, mais c'est pas un pépin dans des tas de métiers. On peut accéder au Graal suprême et travailler pour la télé, et ça ne pose aucun problème pour des postes très respectés. C'est même une condition nécessaire pour être crédible politiquement. Moi, je trouve ça super de ne pas exclure les gens différents. Pour une société qu'on dit d'un autre âge, c'est plutôt avant-gardiste de voir des trous du cul au milieu des visages de ces ministres. Mais il faut être très vigilant, car dans bien des cas, on décèle cette tare chez les autres gens, rarement chez soi. Être handicapé, y'a pas à dire, ça pue du cul, sauf quand ça te permet d'être élu.
Eh oui, c'est déjà un tube. Bien sûr, c'est déjà un tube. Guy Edré, merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu du courrier, tout ça.
Ça donne de l'espoir aux gens qui ne sont pas pareils.
Mais évidemment, je vous parlais de ça, c'était pour CNews.
Plein de possibilités.
Je vous parlais de ça, c'était pour CNews. De toute façon, vous avez des dates de prévues avec Frédéric Fromet pour jouer au CSA, je crois.
Oui, c'est ça. On est invité bientôt chez Pascal Pleu, je crois.
On adore. Merci Guy Edré. On fera tourner cette chanson, cette vidéo. On va la chanter partout, même dans les cours d'école, mais bien sûr. Juliette Arnaud, rappelez-nous qui est là aujourd'hui.
Eh bien, nous avons déjà entendu, certainement pas Juliette.
Déjà certainement entendu.
Déjà entendu.
Bien sûr, respectez la langue.
Déjà entendu.
Nous avons déjà entendu trois femmes blanches. Là, il y a Véron, Juliette Arnaud et Guy Edron. Nous allons t'écouter de femmes noires, Rougetta Ouedraogo et Aïssa Maïga. Mais en attendant, c'est le moment de celui qui ne voit pas les couleurs, Guillaume Meurice.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, dans ce Par Jupiter Class, on va parler de l'école. Parce que c'est une des thématiques de campagne, hein, pas qu'en France d'ailleurs. On parle de l'école, par exemple, au Baléares. Beaucoup en ce moment, notamment au Jules Ferry Night Beach. L'école, c'est une thématique forte. Hier, Valérie Pécresse a dit qu'elle regrettait la disparition de la filière S, qui était un peu la filière de l'élite. Je sais, parce que j'ai moi-même un bac S, et voyez où ça mène aujourd'hui. Je suis entouré d'intellectuels, voilà, les plus grands intellectuels français dans le studio, au bureau. Bon, il y a François Audouin, notre réalisateur, ça compense un petit peu, mais ça reste quand même impressionnant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'inclusion à l'école des enfants en situation de handicap. Éric Zemmour a dit qu'il fallait en finir avec l'obsession de l'inclusion. Et c'est quand même dingue, parce que pour une fois qu'il parle pas des Arabes, Eh ben, c'est quand même de la merde, dis donc. C'est quand même incroyable, chapeau l'artiste. Alors, pour parler de tout ça, j'ai appelé Elisa Rojas. Exactement, voilà. Si. Mais bon, voilà, on dit Rojas en France. Elisa, vous la connaissez peut-être, elle est avocate. Elle a cofondé le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Qu'est-ce qu'elle pense des réactions outrées du gouvernement à la phrase de Zemmour ?
C'est de l'hypocrisie, surtout de la part du gouvernement en place, puisqu'ils sont dans le double discours permanent. Ils prétendent constamment œuvrer pour l'inclusion, alors qu'en réalité, c'est faux. Ils continuent à défendre un système ségrégatif.
Est-ce que le gouvernement qui fait rien, c'est pas justement pour que les élèves trouvent eux-mêmes les ressources ?
Non, malheureusement, je pense que c'est plus vraiment par hypocrisie.
Ouais, je m'en doutais, mais je préfère quand même poser toujours la question. Et c'est vrai qu'avec le gouvernement, on est sur le principe de « j'ai rien contre le handicap, j'écoute du Gilbert Montagné ». Voilà. Après, il plafonne. Après, il comprend plus. Alors, ceci dit, ma question n'était pas si idiote non plus.
Et c'est drôle parce que cette façon de présenter les choses, parfois, il y a des professeurs, il y a des membres d'équipes pédagogiques qui refusent des aménagements à des élèves handicapés en disant ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire ça l'aidera à se débrouiller tout seul. C'est aussi intelligent que de retirer ses lunettes à une personne myope en lui disant tu vas apprendre à te débrouiller.
Oui, et c'est un peu la technique du gouvernement pendant les gilets jaunes, rappelez-vous. Ils ont levé des yeux carrément, voilà, c'était pour challenger les gens, hein, pour les parties de cache-cache notamment, arracher des mains, pareil, pour créer des vocations de Capitaine Crochet à Disneyland. En tout cas, la thématique du handicap, elle interpelle.
Par exemple, la sortie de Zemmour, elle nous a montré à quel point à gauche, quand même, ça rame sévère aussi sur le sujet du handicap. Je pense qu'il faut vraiment arrêter d'axer les arguments sur le pathos et sur la sensiblerie déplacée. Il faut tout focaliser sur l'égalité.
Donc il y a une vraie union de la gauche sur la nullité sur cette question-là.
Il y a une ignorance, une méconnaissance. On n'est pas à la hauteur des enjeux.
Alors bon, que la gauche soit pas à la hauteur des enjeux, je vais pas choper le Pulitzer avec ça. Je vous le dis, alors ben là, je tiens pas un scoop. Alors, comme la gauche va mal, ceci dit, moi j'ai des solutions. Peut-être faudrait organiser un gauchiton. Vous voulez comme un téléthon, vous voulez, mais pour la gauche, je propose des choses. Qu'est-ce qu'elle pense du téléthon d'ailleurs, Elisa ?
On est sur une vision misérabiliste et on n'est pas du tout sur des revendications sociales, des revendications politiques. On n'est même pas capable de faire en sorte que la recherche médicale soit subventionnée correctement par des fonds publics.
Ça fait du boulot à Nagui quand même. Est-ce que c'est pas naguiphobe finalement de ne pas aimer le téléthon ?
C'est pas tellement le problème.
Oui, je me suis un peu perdu. Là, mais j'avoue, je me suis un petit peu perdu, mais c'est vrai que le téléthon, bon, moi je me pose toujours une question, je me dis quelle trace on laissera dans l'histoire ? Et quand plus tard on dira aux gosses, alors, à l'époque, pour financer la recherche scientifique contre la myopathie, les pompiers de Carcassonne tentaient de battre le record de la plus grande choucroute garnie. Vous voyez, on dirait un peu Interville quand on y réfléchit. Il y aura Juliette peut-être sur la couverture du livre d'histoire d'ailleurs dans quelques années. Bon, j'ai l'impression qu'on s'égare un petit peu. Recentrons sur la politique et sur la secrétaire d'État chargée des handicapés, Sophie Cluzel.
La République En Marche, c'est mensonge sur mensonge et elle, voilà, elle affirme des choses qui, sur le terrain et concrètement, ne sont pas vraies, tout simplement.
Elle a sorti un livre là.
Ouais.
Est-ce que le livre de Sophie Cluzel, il n'est pas utile finalement pour caler un fauteuil roulant dans une porte ?
Alors franchement, moi j'en voudrais même pas pour caler mon fauteuil.
Bon, c'est vrai que le livre de Cluzel, bon, il est écrit avec les pieds. Hein, il n'a pas d'excuse parce qu'elle a des mains. Hein. J'ai regardé Sophie Cluzel, donc. Non, mais c'est vrai, elle a vraiment une vraie volonté d'écrire avec les pieds. C'est une sorte de performance artistique. Alors terminons sur un vrai conseil lecture quand même.
Moi je vous conseille vraiment de lire la version alternative qui a été élaborée par les militants handicapés sur les réseaux sociaux. Voilà, ça s'appelle Les différents emmerdes aux éditions Les militants handicapés.
Est-ce que c'est pas du plagiat d'Emmanuel Macron, ça, les différentes emmerdes.
Là, je pense qu'on a le droit, non, pas vrai. Je
pense que là, on a carrément le droit. Vu que si le foutage de gueule était un sport olympique ou paralympique, pas mal de ministres viseraient le podium et que visiblement, l'amputation de la honte n'est pas un handicap pour accéder au pouvoir.
Guillaume Meurice, merci. Oh, le monde est merveilleux. Je vous entends, c'est formidable.
Et merci, Elisa.
Mais bien sûr, merci, Elisa Rojas. Que vous pouvez
elle a un compte aussi. Twitter aussi qui est très intéressant.
Exactement, ouais. Vous pouvez la suivre, elle est très active. Aïssa Maïga, tout va bien ?
Super, je me régale.
Dites, vous avez une carrière à l'international aussi. On va vous retrouver dans une série anglaise de The Fear Index, c'est ça ?
Oui, l'indice de la peur. Ça se passe dans le monde de la finance. Et je suis Chief Risk Officer.
D'autres questions ? Non, parce que je dirais ça se pose là, bien sûr.
Mais vous savez pas ce que ça veut dire, Chief Risk Officer, Charline ?
Bah si, voilà. C'est le chef.
Des risques, quand il y a des risques.
Voilà. C'est entre le juridique et la finance pure.
Oui, voilà.
C'est le tour de contrôle.
Vous
me l'enlevez de la bouche, j'ai pas le temps de m'exprimer, j'ai pas le temps de dire, j'ouvre comme ça, puis hop, voilà. Oui. Les exercices. Juliette, concentrez-vous.
Je suis très concentrée. Hier, un astéroïde de 1 km est passé tout près de la Terre la nuit dernière. L'occasion de faire une petite leçon d'astronomie. Quel satellite tourne autour de la Terre ? Réponse A, Jean-Michel Blanquer qui fait des allers-retours Paris, Ibiza, Punta Cana, Pattaya. Réponse B, Thomas Pesquet. Réponse C, la Lune, qui était pleine hier soir et donc j'ai pas dormi. Maman, elle est fatiguée.
Il n'y a pas que vous.
Et réponse D, le ballon du pénalty de Kylian Mbappé contre la Suisse. Ça s'entend que je ne sais pas de quoi je parle. Cool. Allez, zou, je me lance en politique.
Mais de politique, il en est question dans mon exercice. Arnaud Montebourg a donc... Calmez-vous.
Ah non.
Si, je sais. Désolée. Arnaud Montebourg a donc annoncé son retrait de la présidentielle ce matin.
Non.
Et ça paraît déjà loin, mais quel était son fameux slogan de campagne ? Petit A, la remontada de la France. Petit B, le forfait appel illimitada. Petit C, la Lada ne démarre pas. Petit D, le Canada.
Hein ? Mais c'est quoi le lien avec la réponse D ?
Alors, aucun, j'avais pas d'autres mots qui finissaient par Ada, mais j'ai quand même mis la bonne réponse puisque j'ai mis la remontada de la... Oh,
ouais.
Merde.
Ouais.
Ah mais non,
c'est bien,
mais vous avez dit la bonne réponse.
Non mais faut pas le dire, parce que sinon ça perd tout l'intérêt de l'exercice.
C'est vrai,
vous voyez, Charline.
C'est vrai, je viens de m'en rendre compte.
Ouais. Mais il n'y a plus l'intérêt de l'exercice.
Faut dormir la nuit.
Allez, bah Guillaume alors.
Mais oui, mais là, il n'y a plus l'intérêt de l'exercice. Bon, alors, au lieu de... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette info, je vous la livre. Jean-Michel Blanquer a passé les fêtes de Noël à Ibiza.
C'est pas vrai.
Ah ben voilà. Au lieu comme ça de préparer le protocole sanitaire. Alors, c'est pas la première fois qu'une image d'un politique en vacances choque. Parmi les informations suivantes, lesquelles sont vraies ? Proposition A, au lieu de préparer son programme, Anne Hidalgo a passé les fêtes à Paris-Plage. Il y a peut-être un piège, hein, débrouillez-vous, voilà. Proposition B, Jacques Chirac a été pris en photo en slip avec des jumelles sur le nez. Proposition C, Gérald Darmanin a été pris en photo en slip avec des sœurs jumelles sur le nez aussi, d'ailleurs. Proposition D, Roselyne Bachelot est en réalité en vacances depuis qu'elle est ministre.
C'est dur.
Ça, c'est pas facile.
Ah, le vôtre, il est dur. Moi, j'ai donné la réponse, mais vous, c'est dur. En fait, tout ça, ça se retrouve sur notre page Facebook, bien sûr, hashtag par Jupiter. C'est tellement moderne, Facebook.
C'est incroyable, on est sur Facebook.
C'est une modernité, Facebook. Sûr, il n'y a plus c'est... personne sur Facebook.
Sur
c'est pas
Internet,
grave.
On a une adresse. Allez. Caramel, écrivez-nous.
Bon, on est en lâcher prise, mais un peu de focus quand même, hein, parce qu'il y a quand même des auditeurs qui sont là et ils attendent ce qui suit. Car celle qui soutient les étalons à la CAN, bien sûr, à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Rukyata Ouédraogo.
J'ai appris une excellente nouvelle hier. La natalité a fait un bond en France en 2021, après une année plutôt terne sur le plan démographique en 2020. Il faut s'en réjouir car plus il y a de Français dans le monde, mieux se porte l'humanité.
Ah, bon, je crois, non ?
Fin de la chronique, on peut terminer là-dessus, ça me semble.
Mais cette bonne nouvelle cache une catastrophe à venir. Malheureusement, comme dans le film Don't Look Up, ouais, tout le monde s'en fout. Dans ce film, des scientifiques tentent d'alerter l'opinion qu'une comète, métaphore du dérèglement climatique, fonce sur la Terre et ça n'intéresse personne. Bon, dans le cas du dérèglement climatique, à part quelques attardés négationnistes, on n'est ni plus le problème. C'est juste qu'on est passif, car on ne sait pas quoi faire pour inverser la tendance. Mais la catastrophe dont je veux vous parler aujourd'hui est la perte de la puissance reproductive des mâles occidentaux. Oui, les cocos, il y a plusieurs décennies qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Là, on est dans un déni farouche et acharné bien compréhensible. Vous imaginez nos hommes forts, nos décideurs, nos fiers à bras, nos machos de tout poil avoués publiquement. On est mou du slip, c'est la grande débandade. Alors, on préfère accuser l'égoïsme féminin. Parce que nous, les femmes, nous privilégions nos études ou nos carrières que nous reléguons au second plan notre devoir reproductif. La vérité, c'est que dans un couple sur deux au moins, la difficulté à avoir un enfant vient de l'homme. Les pauvres spermatozoïdes occidentaux sont à moitié KO, bourriers, asthmatiques, vieillis avant l'âge par tout ce qu'on leur envoie dans la gueule. Les plastiques, les intrachimiques agricoles, les perturbateurs endocriniens, le tabac, l'alcool, l'obésité et j'en passe et des meilleurs. Les hommes des pays pauvres sont moins exposés aux modes de vie modernes et du coup moins touchés par le problème. Bon, notez si ça vous rassure qu'ils font tout pour rattraper leur retard. Hein. Au Burkina Faso, par exemple, on est les champions de la pollution aux sachets plastiques. Bon, on est champions dans ce qu'on peut. Hein. Mais pour l'instant, les chiffres sont clairs. Un pays comme la France ressemble de plus en plus à un EHPAD. Le Burkina, avec sa moyenne d'âge de 21 ans et 45% de sa population âgée de moins de 15 ans, ressemble plutôt à une cour de récréation, si je puis dire. Vous me voyez venir ? Et si Zemmour avait raison ? Si le grand remplacement, c'était maintenant ! Quand on l'écoute, on pourrait croire que ce gars est un peu neuneux. Mais oui, c'est une fausse impression. Ce type était visionnaire. Nous restons tous aveugles face à ce problème. Même moi qui vous parle, et je ne vois pas où est le problème. Mais lui, avec son acuité intellectuelle, il voit littéralement son cauchemar se dérouler sous ses yeux. Le grand remplacement, c'est maintenant. Il n'y a rien à faire. Tant que les hommes blancs seront les plus riches, ils feront moins d'enfants. Tant que les autres là, les non-blancs, seront les plus pauvres, ils feront plus d'enfants. Et moi, je ne vois qu'une seule solution pour sauver la France et j'encourage Zemmour à soutenir cette solution. Le métissage ! Métissez-vous, mes frères et sœurs. Créolisez-vous. Rencontrez-vous, tombez amoureux les uns des autres. Aimez-vous et faites des enfants. Et demain, la France sera un pays rajeuni, dynamique, hein, enrichi de toutes les cultures du monde. Bon, c'est peut-être un peu audacieux pour certaines oreilles, mais... C'est beau, non ?
Bravo Corinne ! C'était magnifique ! Merci Rukyata Ouedraogo. Et chers amis, allez voir Rukyata sur scène. Vous jouez demain à 20h à Val-de-Reuil dans l'heure.
Oui.
Dans le 27, comme on dit en France. Merci Ruki, bien sûr. Allez, il y a Rukyata, il y a Issa Maïga, il y a des femmes noires de gauche. C'est une émission totalement intersectionnelle.
Oh, non.
C'est mal.
C'est mal. Allez, on écoute Parc et Cours, Walking at a down pace. Je sais pas, aidez-moi Issa, parce que ça va plus du tout. Maman est fatiguée. Walk at a downtown pace and treasure the crowds that once made me out.
c'était Parquet Court, Walking at a Downtown Pace, parce que pace signifie rythme.
Allure, vous voulez dire.
Oui, c'est ça, parce que j'imagine que bon, avec votre niveau d'anglais, vous êtes dit, elle a oublié, c'est place, parce que Walking at a Downtown Pace, et en fait, pas du tout, c'est pace.
Arrêtez de faire votre petite manie, Charlie, je vous jure, arrêtez.
C'est Walking at a Downtown Pace.
Ça s'est entendu?
Ouais.
D'accord.
Non, moi je... Non.
Ok, très bien, c'est pas grave.
Vous êtes ma prof d'anglais depuis maintenant.
De toute façon, on va demander à une actrice qui a maintenant une carrière internationale de nous faire une jupie master beaucoup trop classe aujourd'hui. Pour partager son amour du cinéma, c'est Aïssa Maïga.
Merci. Je suis venue vous parler de moi.
Ouais.
Moi, Tonya. C'est le titre du film pop, acidulé, trash, hilarant et tragique qui raconte la vie de Tonya Harding. Mais c'est qui, Tonya Harding? Une enfant élevée par une mère célibataire persuadée que sa fille est une future championne. Championne. Si je résume, sa mère devait être du genre à lui dire « Tu seras championne, ma fille. » Mais tu n'es qu'une merde. Dans ce contexte, la performance de cet enfant était certes d'être doué pour la glisse en patinoire, mais aussi et surtout de savoir survivre en milieu hostile avec une mater du genre distante et violente. Alors oui, je vous spoil tout de suite une partie de l'histoire. Tonya Harding est devenue championne. Mais pas uniquement sur la glace. Championne des tabloïds américains de l'époque. Car sa carrière est intimement liée à un fait divers, l'affaire Harding-Kerrigan lors des Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994, mais ça, nous y reviendrons plus tard.
D'accord.
Alors on le sait, les biopics ne sont pas toujours des chefs-d'œuvre. Mais celui-ci est d'une originalité décapante. D'abord parce qu'il est raconté sur le mode du faux documentaire. Beaucoup, beaucoup de liberté dans ce film qui n'hésite pas à faire déraper les dialogues, les situations et le rythme. Et nous voilà embarqués dans la vie de la patineuse Tonya Harding. Une existence qui s'est élevée dans un triple axel des plus maîtrisés, comme pour se sortir du milieu trash de l'Amérique profonde. Une destinée qui a tourné sur elle-même comme pour conjurer le sort en apesanteur, et, c'est pareil, pour finalement retomber mal, très très mal. Le triple axel, il faut le savoir, c'est le saut le plus difficile en patinage. 3,5 tours en l'air, et comme un acteur français célèbre le disait dans un film non moins célèbre, ouais. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage de Tonya Harding est des plus fracassants. Incarnée par la charismatique Margot Robbie, notre anti-héroïne a le chic de toujours se retrouver dans les emmerdes et de se trouver des excuses. Il faut dire qu'on aimerait aussi lui en trouver, tant son personnage force l'empathie. Mais l'Amérique de l'époque ne l'a pas ratée en 1994 lors du scandale qui l'a liée à sa grande rivale, disais-je, Nancy Kerrigan. Le mari de notre chère Tonya, loser, violent, a une idée lumineuse, digne des films des frères Cohen pour éliminer la concurrence, casser les pattes arrière, les genoux, de Nancy Kerrigan, qui, la pauvre, va se faire exploser les rotules par un forcené. Tonya jure qu'elle ne savait pas. L'Amérique entière pense au contraire qu'elle savait et que c'est elle qui a commandité l'agression de sa rivale. Le triple axel s'éternise entre deux extrêmes. L'infiniment rapide d'une pirouette qui défie toutes les lois de la gravité et l'infiniment lent d'une chute inexorable et sans fin à la face du monde. Tonya Harding a été condamnée en justice, deuxième spoiler, et exclue par sa fédération sportive pour son rôle dans cette affaire. La sanction lourde est sans appel. Et derrière ce personnage, de ce faux documentaire, il y a la vraie Tonya. Et c'est ce qui rend ce film encore plus attachant. Imaginez cette gamine malmenée par la vie, ostracisée par le milieu du patinage, parce que trop gouailleuse, pas assez princesse, vous fend littéralement le cœur. Penser à l'enfance qu'elle a passée à vouloir plaire à sa mère maltraitante est tout simplement bouleversant. Alors c'est clairement l'histoire d'une tragédie personnelle, mais acidulée, pop, rock, trash et terriblement drôle. Si, comme vous et moi, vous aviez raté ce film, mais alors foncez, et si vous l'avez déjà vu, je suis sûre que le revoir est un régal.
Oui.
Ouais, merci Aïssa Maïga, vous en parlez.
C'est cool, c'est formidable.
Vous avez fait une chronique comme tel un triple axel avec une réception parfaite.
Oh mon dieu.
How proud and just it was, Nelson.
Je vais mettre 3 jours à atterrir, hein, vous dites.
C'était canon, vous avez donné très 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 envie Aïssa. Vous avez adoré ce film, Juliette.
J'ai adoré ce film et Aïssa l'a raconté magnifiquement.
Elle vous l'a fait revivre.
Et je vais le re-regarder.
Mais voyez le résultat. Formidable, merci beaucoup. Coup,
merci
Aïssa.
À vous.
Merci. Je rappelle que votre film documentaire Marcher sur l'eau, il sort en Belgique le 26 janvier, bientôt disponible sur les plateformes, etc. en France, et qu'il est éligible au César. On attend ça avec impatience. Et puis,
Quand tu seras grand, dans le film d'Andrea Bescon et Éric Métayer, prochainement au cinéma. On vous y attend aussi.
Et je voudrais juste dire un petit truc, c'est que j'ai le plaisir de faire partie des 4 personnes qui vont réaliser des courts-métrages dans le cadre du partenariat qui a lieu entre l'ADAMI, qui est un organisme qui soutient les artistes interprètes, et le Festival de Cannes. Et donc, dans ce contexte, nous quatre, donc Raphaël Persona, Pascal Herbillot, Déborah François et moi-même avons choisi chacun 3 acteurs. Les miens s'appellent Colline Rage, Selena Diouf, Axel Carrez. Vous allez en entendre parler.
Eh bien, on vous suivra, Aïssa. On termine par le dessin. Quelle aubaine pour l'Office du tourisme d'Ibiza. L'île des Baléares était déjà bondée l'été. Grâce à l'influenceuse voyage Jean-Mi, elle est désormais attractive l'hiver. Alors, dessine la couverture du catalogue hiver d'Ibiza. Tu nous l'envoies à l'adresse parjupiter@radiofrance.com. Merci à toutes et Guillaume.
Bravo la parité, super.
Merci Aïssa Maïgal, Elia Véro, merci Guy Edré, merci Rukia Traoué-Draogo, merci Juliette Arnaud. On se dit à demain, nous recevrons Anne de Hey. Elle est commissaire d'exposition. Il y a une expo qui s'ouvre à Saint-Pierre vendredi soir, on va vous en parler. Et elle est spécialiste de l'art outsider pop. Ça va être un petit peu underground, je vous le dis tout de suite. Bref, l'art hors des circuits du marché.
Ça rentre même pas dans les cases.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.